commencement, puis ensuite il s'est tu et il a lu le procès jusqu'à la fin. Il fallait qu'on eût calomnié Joseph K. Et là, c'est la première phrase du procès. Et puis, un matin, sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté. Alors, c'est ça, comme ça qu'on entre, on est déjà en procès. Là, je vous ai lu le français. Alors, il fallait que qu'on eût calomnié Joseph K. En allemand, c'est jemand musste Joseph K. verleumdet haben. Quelqu'un avait dû calomnier Joseph K. Quelqu'un avait dû calomnier Joseph K. Un matin, sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté. Ça commence comme ça. Entre la cuisinière de Madame Grubach, sa logeuse. Et alors, en français, la cuisinière de Madame Grubach, sa logeuse, ne lui apporta pas son petit déjeuner comme elle le faisait tous les jours vers 8 heures. Jamais ce n'était arrivé. En allemand, die im jeden Tag gegen 8 Uhr früh das Frühstück brachte, kam diesmal nicht. Voilà. C'est beaucoup plus fort, cette fois-ci, c'est pas venu. Voilà. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que le petit déjeuner n'arrive pas. Et ça, c'est très important. On est dans un système où les choses qui arrivent n'arrivent pas. On est dans une sorte de jamais qui arrive. Ce qui n'a jamais été arrive. Et puis, on continue, et évidemment, il faudrait tout lire mot à mot, parce que si maintenant on nous donne à voir, on nous donne à voir une scène très particulière où Joseph K, il attend un moment, et il attend ce qui n'arrive pas, donc son petit déjeuner, mais il l'attend depuis son oreiller, depuis son oreiller. C'est-à-dire qu'il est allongé. Voilà comment il regarde face à lui une porte qui ne s'ouvre pas. Et comme depuis une tour, voilà. Et il a la vue sur quoi? Eh bien, non pas sur le petit déjeuner, sur la vieille dame d'en face, qui l'observe avec curiosité, une curiosité tout à fait anormale. Bon. Tout le monde est donc dans une sorte de stupéfaction pour une histoire de petit déjeuner et de ce fait que the time is out of joint, comme dirait Shakespeare dans Hamlet. Il est 8 heures, très important, et tout est détraqué, et le monde entier est détraqué, et ça commence. Et ça commence par un événement extraordinaire. Tout ce qui était en place, la cuisinière, Madame Grubach, n'est pas là. Et c'est un événement d'autant plus spectaculaire que ça porte sur un petit détail d'une vie réglée comme une horloge. Ça me fait penser à Jules César de Shakespeare, c'est-à-dire au mauvais augure. Ce jour-là, la cuisinière n'est pas arrivée. Un oiseau a traversé le ciel. Le monde entier vous envoie le signal que quelque chose défait l'ordre, désordonne, annonce. On ne sait pas quoi, et nécessairement, bien sûr, ce qui ne s'annonce pas. Et voilà. Et c'est en principe ce qui vient comme ça de manière indéchiffrable. Eh bien, il est probable que ce sera ce que je ne veux pas nommer. Voilà. Et tous les signes commencent à décliner de tous les côtés. C'est la première phase du procès. D'un point de vue rhétorique, elle nous intéresse beaucoup parce que c'est une forme cataphorique. Ça s'est passé, c'était une sorte de passé. Ensuite, il y a plein d'êtres qui rentrent. Pardon, là, il y a mon chat qui vient participer. Voilà, c'est l'imprévu, mais bon, ça peut arriver. Et tous les déplacements, toutes les animations sont impersonnelles. À part Madame Grumbach qui existe, tout le reste est impersonnel. Et d'une certaine manière, le côté unheimlich, comme on dit, c'est-à-dire d'inquiétante étrangeté, est mis en scène par le fait que, par exemple, à la place de je ne sais pas qui, puisqu'il est sans nom, on frappe à la porte et un homme entre. Et bien sûr, un homme que jamais K n'avait vu dans cette maison. Va-t'en, ma chérie, va-t'en. Voilà, c'est un peu comme sur les remparts de Hamlet. C'est-à-dire que ça commence comme ça, avec des hommes comme vous et moi qui sont sur les remparts et qui sont interloqués par une présence, une présence qu'on n'a encore jamais vue, bien sûr. Et c'est qui? Alors, ça pourrait être le fantôme. Mais la question qui ouvre toute cette tragédie qui va ensuite résonner tout le temps, c'est Who's there? Who's there? C'est qui? Qui est là? Qui êtes-vous? On ne saura jamais qui êtes-vous. Voilà. L'autre, nous ne savons pas qui c'est. Et comme nous ne savons pas qui c'est qui rentre dans ma chambre, bon, eh bien, cette impersonnalisation angoissante elle produit en nous un trouble et même une perte de notre propre définition. Voilà. On se pose la question de qui peut dire qu'on n'a jamais vu cet homme dans cet immeuble. Alors, par contre, et ça, c'est tous les textes de Kafka vont ensuite nous faire des portraits extraordinaires de ceux qui font apparition comme au théâtre. Entre un vêtement noir qui ressemble à un costume de voyage avec divers rabats, des poches, des boutons, une ceinture, une pochette. Ça a l'air tout ça et on ne sait pas à quoi ça sert. Mais ça a l'air pratique. Alors, le côté unheimlich, il est très, très, très accru finalement, parce que ça nous emmène dans une sorte de voyage fantasmatique. Et pendant ce temps-là, K, bien sûr, est en pyjama ou en chemise de nuit. Pour le moment, entre un costume. Voilà. Ce n'est pas non plus un uniforme. Ce n'est pas un policier. Enfin, on ne sait pas trop qui c'est. C'est un autre. Et les personnes qui entrent, les êtres, je ne veux pas dire les personnes, les êtres qui entrent, ce sont des costumes. Entre des chapeaux. À la fin, ce sera des hautes formes vissées sur la tête. Ma chérie, va demander à manger ailleurs. Vas-y, ma fille. Voilà. Et pendant ce temps-là, K observe depuis son oreiller. Et il est fait prisonnier. Il est fait prisonnier. Il se redresse à demi dans son lit. Il ne se lève pas. Il est toujours dans son état d'arrestation intérieure, puisqu'il ne sait pas qui est quoi. Et que, pour le moment, il est dans un « qui êtes-vous ?» Voilà. « Qui êtes-vous ?» Première phrase. Mais bien sûr, il n'y a pas de réponse. Et on est entré dans l'univers des questions qui n'arrêtent pas d'être posées. Il ne se pose pas et jusqu'à la fin, il n'y aura pas de réponse. Bon. En même temps, ce que je note, et bien sûr comme vous, c'est que c'est une scène de réveil, mais de réveil qui se passe mal. Un réveil qui n'a pas tout à fait lieu, un demi-réveil. Vas-y, ma chérie, voilà, t'as pas la parole là. Alors, les scènes de réveil, vous savez, nous en sommes les bénéficiaires, si on peut dire, effrayés, et on doit aussi à Kafka ces réveils manqués, le plus spectaculaire étant le fameux réveil dans la Métamorphose. Hein. On se réveille, enfin, on se réveille, mais qui se réveille? Ben voilà, qui se réveille? C'est pas Samsa, non. Puis, c'est Samsa, mais Samsa est qui? Une sorte de bête avec d'innombrables pattes. Ça peut nous arriver, mais bon. La question qui nous revient à nous, c'est la question justement de notre rapport au rêve, le fait que nous soyons toujours dans un flottement, dans cette zone comme ça. On ne sait pas si nous sommes réveillés, ou si nous sommes encore en train de dormir et de rêver que nous sommes réveillés et que nous n'arrivons pas à nous reconstituer, à nous reconnaître. Voilà. Ça intéresse tous les rêveurs, cette zone étrange et où se passent des événements qui eux-mêmes ont la force de frappe du rêve. Et tout, est-ce que Samsa n'est pas en train de rêver? Mais donc, tout fait que, tous les détails concrets font que il nous est affirmé que il n'est pas en train de rêver, alors même que tout est de l'ordre du cauchemar. Comme on le sait, Kafka ne fait pas de psychologie, hein. Il ne fait que décrire de manière précise le costume ou bien les êtres, supposés êtres humains qui sont de simples enveloppes. Alors, ce que Kafka apporte à la littérature, c'est ça aussi, hein, c'est que le monde entier peut basculer et avec comme cause quelque chose de tout petit. Il n'y a pas de petit déjeuner. Voilà. Alors maintenant, je devrais aller à la fin du procès, qui est donc Ende, et ces indications qui foncent comme ça tout de suite, alors que dans la première occurrence de datation, nous apprenons que Enfin, nous, peut-être même que nous ne faisons pas attention parce qu'on est déjà embarqué dans l'aventure du procès, mais c'est seulement 3 ou 4 pages après l'ouverture qu'on s'aperçoit que, après tout, toute cette histoire, c'est peut-être pas un cauchemar, c'est peut-être une blague. Alors on se dit, ah bon, c'était une blague? Ah, moi je croyais que c'était un cauchemar. Non, 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 c'était une blague. C'est les collègues de la banque qui ont fait à cas une farce. Enfin, c'est une farce de très mauvais goût, hein. Bon, mais si par hasard c'était une farce, si je passe, est-ce que c'est une... Après tout, oui, ça a de la farce. Il y a de la farce dans ce récit. Espérons que c'est de la farce ou le contraire. Mais ça n'arrive donc que assez tardivement, comme un espoir. Espérons que c'est une farce. Pourvu que ce soit une farce. Mais à la fin, ça ouvre tout de suite sur quelque chose qui aurait des allures de farce. La veille de son 31e anniversaire, c'était vers 9 h du soir, attention, hein. Ces précisions sont importantes. Et pourtant, ça n'a pas changé le petit bruit du destin. La veille de son 31e anniversaire. Alors là, c'est très important parce que tout d'un coup, je me dis, mais toute cette histoire se passe entre le jour d'un anniversaire qui finalement n'aura pas été fêté, dont on ne sait pas si c'était une blague ou quelque chose, un verdict terrible. Et puis, un écho à la fin, où à nouveau c'est l'anniversaire, mais cette fois-ci, cet anniversaire, il n'aura pas eu lieu. Voilà. C'est l'anniversaire qui n'aura pas eu lieu. C'est cette fois, la veille de son 30e anniversaire, son 31e anniversaire, c'était vers 9 h du soir. Voilà. Alors, je regarde l'heure qui me fait peur, parce que j'ai une horloge, et donc, je vais sauter et vous parlez de date. Voilà. C'est très daté toujours, Kafka. En fait, quand on lit ces textes, quand nous lisons ces textes maintenant, si nous ne nous laissons pas revenir à l'année 1914, quand nous n'étions pas encore nés, mais où tous les nôtres étaient nés, bon, non, tout est date. Mais chez Kafka, ce sont des dates volées. Ce sont des dates, mais elles sont précisé par l'heure. Ah, mais c'était à 9 h. Mais je vous ai dit, mais non, c'était à 8 h. La première fois, c'était à 8 h. Cette fois-ci, c'était à 9 h. Quand même, 1 heure a passé. Qu'est-ce qui s'est passé le 27 janvier, par exemple? Je pose ça en passant, je dis, un 27 janvier, je me pose la question. Ben, le 27 janvier 1945, on a libéré le camp de concentration d'Auschwitz. Et le 27 janvier est né Mozart, c'est ça, le livre de l'humanité. Voilà. Mais là, personne n'est né. Le 31e, c'est fini. Il n'a pas lieu. C'était vers 9 h du soir. Mais à ce moment-là, par contre, entre à 9 h un vêtement tout à fait particulier. Alors, il y en a deux qui parfois ne sont plus qu'un, ne font plus qu'un. Et après, il y en aura trois qui ne feront plus qu'un. Ils sont pâles et gras, et leur haute forme, voilà comment ils sont, et leur haute forme semble vissée sur leur tête. Pâle et gras, le même statut que les chapeaux. Et tous les deux, comme s'ils n'étaient qu'un, sont exactement semblables. Alors, ils sont aussi très, très particuliers. Ils font quelques politesses à la porte de l'appartement. Entre eux, ils lèvent un seul chapeau, ils échangent un chapeau pour se faire une petite politesse à la porte de l'appartement. Et puis, ils font quelques pas, et à nouveau, ils font une autre politesse, et cette fois, ils font encore une autre politesse de chapeau à Joseph K. Voilà, tout comme si on était au cinéma. Et il recommence de porte en porte et de chapeau en chapeau. À nouveau des politesses, des petites politesses. Quant à Joseph K., eh ben, à nouveau, il est dans la même situation. C'est que cette visite ne lui a pas été annoncée. Voilà. Sans qu'on lui ait annoncé cette visite. Il est toujours comme ça. Et sans être prévenu, il est. Et il n'a pas eu son petit déjeuner, mais non. Mais non, curieusement, comme si quelque chose avait gagné, comme le sort, comme la... Eh bien, il est en train, lui, cette fois-ci, sans avertissement, il est également assis, également, voilà, comme sont les autres, à la place du lit, il est assis sur une chaise, ah, il y a du nouveau quand même, et il enfile lentement, et voilà du nouveau. Il enfile lentement des gants neufs qui lui moulent étroitement les doigts. Il avait l'air d'attendre des invités. Ah, il a l'air d'attendre. Mais en fait, Oui, tout ce qu'il peut avoir, c'est l'air. Et il se lève aussitôt et il regarde les chapeaux de forme qui sont rentrés et qui contiennent les messieurs. Il les regarde avec la curiosité qu'on voit toujours se manifester dans les textes de Kafka. C'est très important et il arrive des choses extraordinaires et elles n'arrivent jamais comme on pourrait s'imaginer qu'elles vont arriver. Voilà. Ah, alors c'est vous? Ah, alors c'est vous? Qui êtes-vous? Ah, ben c'est vous? Ah, ben oui. Voilà. C'est eux. Ce sont les jumeaux. Les jumeaux, la mort arrive cette fois-ci sous la forme de jumeaux. En chapeau haute forme. Voilà. Peut-être que justement, c'est ça qui fait si peur avec la mort, c'est qu'elle arrive de manière si étrange, pas du tout comme on l'attendait. Pourtant, on était en train de se mettre les gants neufs. Mais cette mort-là, c'est la mort de Joseph K. Et là, d'une certaine manière, il la reconnaît. Il la reconnaît et en même temps, il la vit librement. La veille du 31e anniversaire de Kafka, ben, c'était la veille du 3 juillet 1914. Bon, c'est un moment très important dans l'histoire des pays germanophones, de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie. C'est le jour où on a arrêté les responsables ou les coupables de l'assassinat du grand-duc à Sarajevo, qui a entraîné la guerre, qui a entraîné la destruction de l'Europe, qui a entraîné la disparition de l'Autriche, qui a entraîné les autres guerres, enfin jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore sous le coup de la veille de l'anniversaire de Kafka en 1914. Voilà. Alors, je ne veux pas oublier la colonie pénitentiaire, donc j'y vais. Et ça, c'est pas une blague, hein. Nous sommes initiés au fonctionnement de la condamnation à mort. Et comme toujours, il faut être deux. Il y a toujours deux. Donc cette fois-ci, il y a, à part le visiteur et l'officier, il y a les deux qui sont les petits personnages marionnettes qui vont incarner sur la scène déserte l'exécution. Raya, va-t'en, ma chérie. Voilà. Et c'est un couple de jumeaux, c'est le soldat et le condamné à mort, qui est lui-même un ex-soldat, enfin un soldat qui va être exécuté. Et à nouveau, on a cette curiosité intense, cette façon dont le condamné déchiffre, comme le soldat, si je peux dire, essaye de déchiffrer sur l'exécuteur une sentence qui Il y a un moment, je dois dire, dans ce texte, il faut que je cite parce qu'il est trop joli, même si tout est à citer, bien sûr. C'est celui-ci. L'officier qui est l'ingénieur, enfin l'ingénieur supposé de cette machine extraordinaire, extraordinairement compliquée, d'une technologie inimaginable, il montre à cette espèce d'inspecteur qu'est le visiteur, parce que dit-il vers la fin du texte, il est temps, et de quoi il est temps, ah oui, ah oui c'est tight. Bon, de quoi il est temps? De quoi est-il temps? Alors il va montrer, il va initier le visiteur à presque aux shibboleths, c'est-à-dire à quelque chose qui va faire comprendre tout à quelqu'un qui sait lire. Alors, il sort de sa poche un petit portefeuille de cuir, l'ingénieur, enfin, qui est donc l'officier, il tourne des pages, il trouve la feuille qu'il cherche et qui porte la sentence qui joue double, comme en français, la sentence de la condamnation qui doit être imprimée par la herse sur le corps du condamné. Mais regardez bien cette feuille, dit l'officier, en venant se mettre à côté du visiteur pour lire avec lui. Il passa le petit doigt au-dessus du papier, en le tenant levé très haut. C'est très important ça, il faut que le petit doigt soit levé très haut. Comme s'il ne fallait en aucun cas toucher cette feuille, afin d'aider ainsi le visiteur dans sa lecture. Alors tu lis, le visiteur s'applique autant qu'il le peut pour faire plaisir au moins à l'officier. Mais impossible de déchiffrer. Mais alors, l'officier commence à épeler l'inscription. Puis, alors d'abord il l'épelle, ensuite il la relue intégralement. Et vous savez ce qu'elle dit? Alors, moi je m'attends évidemment à une très longue phrase et bon, il sera condamné. Bon, eh bien c'est sois juste. Il l'a relue intégralement. Voilà ce qui est marqué. Vous pouvez quand même le lire maintenant. Alors vous pouvez lire sois juste. Et le visiteur se penche tellement sur le papier qu'il va tomber dedans et l'officier le retient. Et retire le papier de crainte que le visiteur le touche. Et le visiteur ne dit plus rien parce que il peut toujours pas, il peut pas le lire. Sois juste. Voilà ce qui est marqué, sois juste. Ah ben ça se peut, dit le visiteur. Je veux bien le croire que c'est ce qui est marqué. Bon, et là, on est toujours dans l'engrenage. Ceci étant sans fin. Maintenant, juste avant de vous amener à une autre exécution, pour finir, je vous montre juste le fonctionnement d'un paragraphe de Kafka. Et là, je triche un tout petit peu, là je vous le lis en français. Lorsque l'officier en eut terminé tout là-haut, c'est-à-dire embrassant tout avec sa herse qui est animée donc, il embrassa encore du regard en souriant toutes les composantes de la machine, referma cette fois le couvercle du traceur, qui était resté ouvert jusqu'à présent, descendit, regarda la fosse puis le condamné. D'abord la fosse puis le condamné. Non, nota avec satisfaction. Que ce dernier avait récupéré les vêtements, alla se laver les mains au seau d'eau, se rendit compte trop tard de la saleté de celle-ci, s'attrista alors de ne pas pouvoir se laver les mains, les plongea finalement, ce substitut ne le satisfaisait pas, mais il fallait s'y faire, dans le sable, puis se releva et commença à déboutonner. Et il y en a 2 pages. Voilà. Donc, comme quoi, tout est machine. Mais ça se termine par quoi? Les 2 mouchoirs de dame qu'il avait coincés derrière son col furent la première chose qui tomba du col de l'uniforme. Il faut bien qu'il y en ait 2 quand même. Cette fois-ci, ce sera les 2 mouchoirs. Bon. Bon, alors, c'est là qu'on voit à la fin, à la fois le souci flaubertien, vous savez que c'est un amateur de Flaubert, de Kafka, dire les secrets de la puissance des détails qui ont en fait une force magique, beaucoup plus que ce qui serait, par exemple, comme il le dit et le souligne très souvent, qui serait une sorte d'analyse psychanalytique. Non, non, tout est dans les petits détails qui ne veulent rien dire et qui pourtant disent quelque chose. Deux, 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 deux. Et puis, quelque chose qui évidemment est l'ordre de la farce, parce que quand Kafka déploie la machine de la phrase ou des phrases qui s'enchaînent, il va pas rater une petite articulation parce que c'est quand même trop. Il en faut au moins 10, 20, et peut-être qu'il y en avait encore d'autres. Voilà. Alors, la veille du 31e anniversaire, je vais juste vous indiquer dans le 2e paragraphe comment les messieurs en haute forme se manifestent. Ils ne parlent pas. Voilà. Il n'y a pas de sentence. Ils baissent la tête, ils se font signe. Et puis, il y a 2 petits-enfants, donc, comme je disais tout à l'heure, et non pas des petits-enfants, qui sont derrière une fenêtre éclairée et qui jouent et qui sont encore incapables de quitter leur place et qui tendent leurs petites mains tâtonnantes. Et K qui dit, mais comment ça? Pour mon destin, on me refile 2 acteurs subalternes de dernier ordre qui sont à peine des figurants et c'est que des hautes formes, même pas capables. Non, mais enfin bon, il est assez vexé quand même, hein, parce qu'en plus, être mené à une mort de cette façon, alors il se retourne tout de suite vers les 2 hommes et il leur demande, et dans quel théâtre jouez-vous? Ah, tout ce qu'ils arrivent à dire, c'est théâtre. Ils se regardent l'un l'autre, non, pas du tout. Théâtre. Alors K, attention. Il va chercher son chapeau. Autrement dit, il entre dans la confrérie des chapeaux. Bon. Comme il va être bientôt midi et que je ne veux pas vous priver de déjeuner, ça m'a fait faire beaucoup de soucis. Je me suis dit, oh là là, il va falloir qu'on s'arrête. Bon, mais ça ne fait rien, comme ça on n'aura pas besoin d'exécuter. Je vais vous montrer quelque chose, un petit trésor. C'est encore une histoire de 2. Et aussi une remarque sur la façon dont Kafka travaille. Des années après, les exécutions n'ont toujours pas eu lieu. Elles sont toujours là, en train de. Et donc, c'est seulement en 1917, si vous avez le courage de poursuivre le travail de Kafka, que dans le journal de Kafka, on voit au mois d'août, alors au mois d'août, très précisément, Kafka qui revient sur les lieux de l'exécution et qui reprend, et qui reprend, et qui reprend, paragraphe après paragraphe. La fin, alors la fin de la colonie pénitentiaire, non, c'est pas comme ça, c'est, alors on a juste un petit détail, non, alors une phrase, non, un mot en plus, en moins, non, encore un autre, encore un autre. Et ça se termine d'une manière qui est, bon, dans la note générale, je vais vous le lire, ce dernier petit paragraphe. Comment, dit soudain le visiteur, ça se termine à la perte. Avait-on oublié quelque chose? Un mot? Un geste? Une main tendue? Extrêmement probable. Une faute grossière? Une idée complètement fausse? Un trait qui crisse et fait gicler l'encre? Traverse tout? Mais qui va le corriger? C'est... Alors, bon, encore une liste. Et là, deux pages de questions. Où est l'homme qui le corrigera? Où est le bon vieux meunier de mon pays du Nord? Qui va prendre les deux garnements qui ricanent de l'autre côté et les coincer entre les roues de la meule? Et ça, vous le lisez et vous passez. Mais moi, pas. Alors pourquoi? À cause de ça que je vais vous présenter. J'espère que vous allez trouver en moi. Alors, c'est une bande dessinée, si on peut dire. Alors, je vous montre. J'espère que vous voyez. Ça, ce sont les deux garnements. C'est Max et Moritz. Après, je vais vous expliquer. Alors, deuxième. Voilà. La troisième. Chaque image est accompagnée de ses vers de Mirliton. Alors, je traduis. Et voilà. Et dans l'entonnoir, première image, le gentil voisin verse les deux vilains, les deux petits salauds. Donc, il y a quelqu'un qui verse dans un entonnoir géant. Max und Moritz, Max et Moritz, les deux inséparables. Voilà. Et crac, fait le moulin en claquant et craquant. Et qu'est-ce qui sort? C'est Max et Moritz en tout petits morceaux. Là. Et puis, là, vous pouvez encore les voir bien moulu fin et en petits morceaux. Les voilà. Voilà les derniers Max et Moritz en petits morceaux. Alors, ils ne sont pas nommés, pourquoi? Parce que je pense que tous les germanophones, tous les lecteurs de langue allemande auront reconnu que les deux petits gamins, les deux garnements, dit le français, qui ricanent de l'autre côté et qui vont être jetés dans la meule, c'est Max et Moritz, tout le monde les connaît. Alors, Max et Moritz, ce sont les deux petits personnages dont nous n'avons pas d'équivalent dans notre mémoire d'enfants français, francophones, et qui sont des héros dont la force de frappe et d'inspiration est extraordinaire. Personne n'échappe à Max et Moritz, qui sont des petits salauds, et qui auront tourmenté et persécuté absolument tout le monde dans la petite ville où ils sévissent. Et puis l'institutrice, jusqu'au maître, jusqu'au papa, jusqu'à la tante, vraiment tous. Et bien sûr, le boulanger, tout a été dévalisé chez lui. Enfin, bon, Max et Moritz, il n'y a rien qui n'ait pas fait comme méchanceté. Et tout le monde en veut à Max et Moritz. Et puis finalement, il y a un personnage parmi tous ceux qui a été victime de ces deux petits garnements. Qui les aura attrapés et qui les amène maintenant au moulin. Et voilà, c'est fin de Max et Moritz et qui passe au moulin, mais quand même, il y a des traces, des petits morceaux de Max et Moritz. Alors, pour vous dire à quel point Max et Moritz sont importants, Kafka n'est pas sans Max et Moritz. Kafka, la cruauté, la méchanceté, la capacité de faire du mal et tout ça avec un côté à mourir de rire, c'est Max et Moritz. Et on reconnaît tout de suite, comme ça, ce mélange de. Est-ce que c'est une blague? Non, pas du tout, c'est pas une blague. Là, voilà, couchez-vous là, voilà votre sentence, et vous allez passer maintenant en petits morceaux. Bon. On comprend pourquoi, moi je pense que comme vous, j'ai dû être surprise de temps à autre par le fait qu'on dit, on rapporte, et les amis de innombrables d'ailleurs de Kafka rapportent que quand Kafka lisait ses textes, il se tordait de rire, et eux aussi, enfin tout le monde riait. Moi je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qui les fait rire? Qu'est-ce qui les fait rire? C'est leur héritage Max et Moritz. Et de même, je dois vous dire que Max et Moritz se promène dans Freud, et il n'y aurait pas Freud sans Max et Moritz. On ne peut pas s'en passer. Ça fait partie. Je ne sais pas si nous avons des personnages aussi porteurs. Je ne crois pas que dans La Fontaine ou bien dans les contes de Perrault, nous ayons des personnages mythiques aussi insistants, aussi présents, et de la manière en même temps la plus comique, parce que c'est du comique en même temps. Alors là, moi j'ai mis tout ce que j'avais à vous dire en tout petits morceaux, parce que j'avais à côté de moi une sorte de monstre qui était comme les machines dans Kafka, et qui me disait clic, 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 knac, 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 c'est l'heure, c'est l'heure. Comme ça, vous avez un peu la parole. J'étais accompagnée, bien sûr, de l'esprit des choses, c'est-à-dire mon chat, un de mes chats.
Merci infiniment, Hélène Cixous. Maintenant, en effet, la parole est à vous, donc ne soyez pas timide. Il y a un micro qui circule pour que Hélène Cixous puisse vous entendre.
C'est pas obligatoire, vous êtes libre, comme dit Kafka.
Bonjour Madame Cixous, toujours très impressionnant de vous voir, aussi impressionnant que si on voyait Kafka. Et j'ai une question un peu personnelle, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Quelle est votre histoire à vous avec la lecture de Kafka, c'est-à-dire à quel âge avez-vous commencé à le lire? Comment avez-vous trouvé? Dans quel ordre avez-vous lu ces livres? Lequel lisez-vous encore et encore? Lequel est-ce que vous n'aimez pas, vous ne supportez pas? Voilà.
C'est des bonnes questions, ça. Alors, comme vous le savez, si je m'en tenais à la fidélité à Kafka, je ne vous répondrais pas. Mais je vais vous répondre tant bien que mal. Je pense que j'ai dû toujours lire Kafka dès que j'ai pu lire. Peut-être justement, je ne me rappelle pas par quoi j'ai commencé, ça devait être par la métamorphose, parce que c'est ce qui court partout et qui semble être destiné à être lu par des enfants. Hein. C'est les contes de Grimm, c'est ceux qui alimentent toute l'enfance cruelle des petits Allemands. Je pense que c'était ça. Mais en tant qu'adulte, si je peux dire, j'ai eu d'abord un rapport compliqué avec Kafka, parce que d'abord, justement parce que le procès, je butais toujours. C'est pour ça que j'ai commencé à le travailler cette fois-ci, parce que je me suis dit, il faut y aller quand même. Bien sûr que Kafka, tout, j'ai tout lu, des centaines de fois, si je peux dire, mais vraiment, pas, et bien sûr pêle-mêle, hein, il n'y a pas d'ordre. Et je pense aussi que ça se rapporte, et ça c'est tout à fait personnel, puisqu'on est dans cette direction. Comme Kafka est né pratiquement la même année que ma grand-mère, qu'il est d'une zone où mon grand-père était en activité, j'avais une sorte de familiarité et de curiosité, puisque, après tout, pour moi, il est l'écrivain des enfances de mes grands-parents. Et puis j'ai été réticente. Et en particulier, je n'ai commencé à l'analyser que plus tard, quand j'ai commencé à. Quand c'est sorti très tardivement, mais c'était dans les années 60, j'ai commencé à lire les lettres à Milena, etc., qui sont des chefs-d'œuvre. Mais en même temps, j'ai éprouvé une forte antipathie, parce que je me suis dit que c'était pas possible, que son comportement avec les femmes était insupportable. Je m'attendais, j'espérais toujours, mais elles ne le faisaient pas, qu'elles allaient se battre avec lui, pas du tout. Et c'est avant que je sois arrivée à un moment où je me suis dit que c'était d'abord que c'était les chefs-d'œuvre, ensuite que il était qu'il était qu'il, que sa force était accompagnée d'une faiblesse équivalente, d'une angoisse réelle. Il y avait autre chose aussi, c'est que je me disais qu'il est mort de tuberculose comme mon père au même âge. Alors je me suis dit, ça fait trop de choses. Voilà. Bon. Mais ensuite, j'ai très très vite senti que l'œuvre de Kafka était inséparable de tout ce que je faisais par son côté extrêmement agressif, combatif dans l'écriture. Hein. Et pour moi, c'est un modèle d'écriture. C'est-à-dire que j'avais, quand j'ai commencé à vivre dans ce monde qui s'appelle littérature, j'avais des sortes de grands patrons aimés et fréquentés. Et c'était Joyce, c'était Shakespeare, et c'était Kafka. Et quand je me disais, quoi qu'il en soit concernant le fatidique dans un être humain, je disais toujours à Kafka, comment tu le vis, ça? Et il me le disait. Chacun ayant sa fonction, c'est-à-dire chacun de mes maîtres, sans compter Montaigne, qui est l'oncle de tous ces gens-là, hein, c'est inouï. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai quand même développé mon rapport à Kafka en travaillant beaucoup sur son texte dans la langue et en faisant ce qu'il faudrait pouvoir faire. On ne peut pas le demander au lecteur. Il faudrait pouvoir quand même le lire en allemand. Parce que c'est un artisan, c'est quelqu'un qui écrit avec une sorte de pureté, de sobriété. Il n'y a pas le moindre détail. Alors c'est bourré de détails, mais il n'y a pas un détail qui soit là pour rien. Absolument, tout travail, tout, il machine sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc pour moi, c'est le grand. D'ailleurs, personne ne s'y est trompé. Hein. Ce qui est admirable, c'est que quand même, dès qu'il a commencé à écrire, tout l'univers très riche. Des écrivains et des intellectuels de cette époque-là, du début du XXe siècle, l'a reconnu. C'est incroyable à quel point il a bénéficié d'une admiration qu'il n'a pas exploitée, parce que lui, ce qui comptait pour lui, ce n'était pas d'être un personnage médiatique, c'était d'essayer de faire un sort aux innombrables questions qui étaient en eux-mêmes. Exclusivement en elle-même, exclusivement des réponses. Bon, donc c'est un très très grand quoi. Alors maintenant, pour vous dire aussi mon état d'esprit, d'abord je l'adore, j'ai plus le même âge que quand j'avais 20 ans, mais d'un autre côté, j'ai toujours peur, donc je dis exactement le fond de ma pensée, de sa médiatisation. Je me dis, oh là là, parce qu'il est tellement médiatisable, effectivement, et on peut tellement le transposer en icône, en carte. Enfin, donc voilà, j'ai toujours peur qu'à ce moment-là disparaisse le miracle de son écriture. Mais lui, de son côté, c'est un artiste, c'est un grand artiste de la langue. Alors qu'est-ce que je lis? Il n'y a pas d'ordre pour moi, parce que d'abord, il n'y a pas d'ordre pour Kafka, parce qu'au fond, Kafka ne fait que dire en un temps très court. Donc même pas 20 ans, hein, il retraverse tout le temps les mêmes territoires mystérieux et sous d'autres formes, avec d'autres métaphores, avec d'autres. Et puis, chaque fois, en introduisant les personnages qui sont justement ce que je trouve évidemment ce qu'ils nous apportent, c'est la libération du personnage ressemblant à un être humain qui habite quand même toute la littérature jusqu'à lui. Et puis le fait qu'à ce moment-là, ils sont tous en mutation et que ce sont des hybrides, que ce sont des moitiés, des mi-humains, par exemple, l'arrivée à toute vitesse de la synecdoque, elle monte en courant et elle s'abat comme ça chez le narrateur, fatigué, épuisé. Ah là là, qu'est-ce que c'est haut chez vous, j'en peux plus. Hein. Puis elle a son fameux grand chapeau à longues plumes. Enfin, c'était pas la synecdoque, là, ça devait être la métaphore, je me rappelle plus quel personnage de ce genre. Mais, et tout ça, cette façon justement de donner vie à ce qui ne serait qu'abstraction et qui pour lui est animé. Sa vie, ça bouge tout le temps. Comment on pourrait faire. Qui est-ce qui a amené les hautes formes vissées sur la tête à tenir un rôle aussi important, aussi tragique? On en a besoin. Et seul Kafka, évidemment, l'a fait de cette manière, et de manière à la fois sérieuse et en même temps à la façon justement de Wilhelm Busch, l'auteur de Max und Moritz. Bon. Alors je pense qu'il n'y a pas une semaine où je ne lise pas du Kafka par-ci par-là pour mon plaisir, aussi parce que c'est infini. Hein. Et beaucoup, je préfère le journal, ça c'est moi, il n'y a pas de raison, mais c'est comme ça. Et peut-être aussi parce que lui-même se met des ceintures de sécurité quand il écrit Le procès ou Le château, et il faut accepter que justement ça ne, il puisse pas le finir. Ça n'a pas l'intérêt de le finir d'ailleurs, c'est sans fin, c'est sans fin. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai dépassé complètement ma résistance qui était de jeunesse. Mais à l'époque, je résistais à beaucoup de textes, de toute façon. Je trouvais qu'ils devaient me ressembler et pas moi à eux. Et je me dis parfois...
Merci beaucoup à vous tous. Je ne sais pas si Hélène, vous avez vu un peu la salle, mais c'était une salle très... très remplie. Donc, merci beaucoup à vous.
Vous savez, ce qui est horrible, c'est que je ne fais que me voir. Mais heureusement, je suis mieux. Sinon, ça serait...
Mais il y avait une belle salle et vous étiez magnifique sur le très grand écran.
C'est gentil.
Merci beaucoup.